Radio Prague, les informations.
Jan Fischer à la vice-présidence de la BIRD. L'ambassade tchèque en Thaïlande confirme l'arrestation de deux ressortissants tchèques et c'est le jour de la Terre en République tchèque. Bonjour, l'actuel chef du gouvernement de transition, Jan Fischer, va sûrement obtenir le poste de vice-président de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Il a remporté l'appel à candidature internationale et devrait remplacer à ce poste l'ancienne ministre slovaque des Finances, Brigitta Šognerová. La nomination de Jan Fischer devra être confirmée par le conseil d'administration de la BIRD le mois prochain. Avant de devenir Premier ministre, il dirigeait l'Institut tchèque des statistiques. L'ambassade tchèque en Thaïlande confirme l'arrestation de deux de ses ressortissants. Ils auraient participé à l'enlèvement d'un Hollandais pour lequel une rançon de 90 000 euros avait été demandée. Après échange de la rançon, le ressortissant hollandais serait allé se plaindre à la police thaïlandaise qui aurait réussi à identifier puis à arrêter les kidnappeurs. Un Polonais est également impliqué dans l'affaire et toujours recherché par la police. La consul de République tchèque à Bangkok a confirmé que les deux Tchèques, âgés de 36 et 37 ans, sont détenus par la police, mais elle refuse de donner plus de détails, estimant que les informations données par les autorités thaïlandaises sont contradictoires. Le quotidien israélien Haaretz, dont la ligne éditoriale est située à gauche de l'échiquier politique du pays, a révélé que les services d'espionnage du Liban et le mouvement du Hezbollah au Liban ont accusé la République tchèque de coopérer avec les services secrets israéliens. La République tchèque serait notamment accusée d'avoir formé un agent sur son sol et le journal rappelle qu'elle est l'un des plus fidèles alliés de l'État hébreu en Europe. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas voulu faire de commentaires. À de nombreux endroits du pays, les Tchèques commémorent le jour de la Terre incombant à ce jeudi 22 avril. Les amateurs de cyclisme, par exemple, se réunissent pour se promener à Prague, à Plzeň et à Ostrava. Parmi d'autres activités, on citera des rencontres débats, du nettoyage de torrents ou des plantations d'arbres. Le président du Parti des Verts, Andrzej Liszka, va lui-même planter un arbre à Prague, tout comme Ruth Biskova, nouveau ministre de l'Environnement. 175 États se joignent au jour de la Terre, proclamé pour la première fois en 1970. Selon le président tchèque Václav Klaus, l'eurozone et l'euro survivront aux problèmes actuels. D'après lui, le prix en sera cependant élevé et se traduira par un ralentissement de la croissance économique et l'augmentation des transferts financiers vers les pays qui ont des problèmes. Il a développé cette idée dans un article publié dans l'hebdomadaire Économe. Václav Klaus estime également que la monnaie européenne unique n'a pas apporté l'effet souhaité. Et les champions tchèques des Jeux Olympiques de Vancouver ont été reçus ce jeudi au château de Prague pour se voir remettre des mains du président Klaus des plaquettes d'or, les récompensant pour leur performance lors de ces derniers Jeux Olympiques d'hiver. Václav Klaus a félicité personnellement la patineuse de vitesse double championne olympique Martina Sablikova, la slalomeuse Sharka Zarobska et l'équipe de fondistes médaillés de bronze. Et on termine avec la météo ce jeudi, jour de fête de tous les Evgénies. Selon le calendrier local, le ciel est presque dégagé sur l'ensemble du territoire avec des températures autour de 13 degrés pour les maximales. De légères averses locales devraient apparaître à partir de vendredi. Les températures devraient à nouveau augmenter. Voilà, c'était le bulletin d'information présenté par Anne-Claire Velure.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver au programme du jour. On commencera un peu exceptionnellement par de la culture. La 45e édition du Festival international du film de Carlo Vivari, c'est début juillet et on connaît déjà la liste de certains films à voir dans 2 mois et demi. Il y a 30 ans, disparaissait la variole, maladie cutanée très contagieuse, voire mortelle, qui n'existe plus aujourd'hui que dans des souches de laboratoire. Elle fait l'objet d'une exposition au Musée national à Prague. On finira avec un mot sur un projet du ministère des Transports qui vise à améliorer la législation existante pour favoriser le déplacement en vélo en ville. Si ce projet aboutit, ce serait une bonne nouvelle pour les amoureux de la petite reine. Bonne écoute de ce programme. « À environ 2 mois et demi de l'ouverture du 45e Festival international du film de Karlovy Vary, certains aspects du programme ont déjà été dévoilés. Outre le réalisateur tchèque Bohdan Slama, qui sera membre du jury, on sait déjà que dans la compétition internationale se trouveront 2 films tchèques, contrairement à l'an dernier, ainsi que le film français L'enfance du mal, premier long métrage d'Olivier Kousmak avec Pascal Grégory. Autre grand moment, une présentation du cinéma belge actuel. Alors pourquoi avoir choisi ce pays? C'est ce que nous explique la directrice artistique du festival, Eva Zauralova.
Parce que je trouve que peut-être le cinéma belge est un peu dans l'ombre du cinéma français. Et parce que beaucoup de films sont produits par les deux pays, par la Belgique, par le Belgique et par la France. Et quelquefois, les spectateurs ne distinguent pas qui est le réalisateur parce que ils disent alors c'est un film français, parce qu'il s'agit beaucoup de la part francophone. Et beaucoup de cinéastes qui sont aujourd'hui très connus sont nés en Belgique. Chantal Ackerman, par exemple, si vous voulez. Mais en même temps, alors, il y a aussi l'autre cinéma belge, c'est le cinéma flamand. Et il a beaucoup de succès dans les festivals, par exemple, dans la quinzaine des réalisateurs, même dans la semaine de la critique.
Et alors finalement, vous avez quand même sélectionné 4 films wallons et 4 films flamands.
4 films flamands et 4 films francophones.
Côté tchèque, alors vous disiez il y a des films tchèques dans la compétition, contrairement à l'an dernier.
Dans la compétition principale, oui, alors dans la compétition internationale, il y aura 2 films tchèques. L'un est fait par un auteur, c'est son premier film, l'auteur s'appelle Tomáš Machín. Et le film s'appelle 3 saisons en enfer. Le film a eu 2 ou 3 lions tchèques récemment. Mais nous aurons aussi, et ça me fait beaucoup de plaisir de dire que nous avons, que j'ai vu hier, le nouveau film fait par Siam Svirak, qui est très connu même dans le monde pour ses films, surtout pour Kolia,
parce qu'il a eu un Oscar.
Mais il a eu un Oscar d'étudiant avant encore pour le Ropazzi. C'était un film qui a été présenté pour l'Oscar et il a gagné l'Oscar des étudiants. Mais il y a très longtemps, tandis qu'il est très connu aussi par ses autres films, récemment par une comédie. Mais cette fois, alors, il est passé dans le monde fantastique. J'ai pensé beaucoup en regardant son film qui s'appelle Le Retour de Cookie. Cookie, c'est un teddy bear,
un petit ours
de...
Pour les enfants?
Pour les enfants, oui. Parce que, en effet, le rôle principal est tenu par le fils de Jan Svirak, qui parle aussi pour ce jouet, mais c'est pas un film pour les enfants, c'est plutôt comme les films, si vous réalisez les films de Tim Burton, alors c'est un peu comme ça.
Ils sont dans un espèce de monde onirique, mais qui s'adresse aussi aux adultes.
C'est très réaliste, il y a beaucoup de paroles qui parlent de l'humanité, pas seulement de royaume des animaux.
Vous pensez que ce film peut intéresser justement à l'étranger, hors des frontières de la République tchèque ?
Oui, je crois. J'espère. Je crois que ça va intéresser beaucoup de public.
Et le 45e festival du film de Karlovy Vary, ce sera du 2 au 10 juillet prochain. Mort à la variole est le titre de la nouvelle exposition inaugurée au Musée national mardi et consacrée au 30e anniversaire de l'éradication de la variole. Une infection qui tuait tous les ans 2 millions de personnes dans le monde entier. Préparée avec le concours de l'OMS, l'exposition rend un hommage spécial aux épidémiologistes tchèques et à leur contribution à l'éradication de cette maladie infectieuse très contagieuse et épidémique. Jarka Gisubelova.
L'éradication de cette infection est un rêve éternel de l'humanité. Pendant des siècles, la variole est un fléau redoutable et redouté. Dans 80% des cas, elle tuait. Quand elle ne tuait pas, elle laissait des visages défigurés à vie et les rescapés étaient souvent frappés de cécité. Au début du XXe siècle, la variole sévissait sur tous les continents. Encore en 1967, elle était présente dans 45 pays. Plus d'un tiers de la population mondiale vivait avec le risque d'être contaminée par le virus. Le bilan des victimes de la variole dépasse le nombre total de l'ensemble des victimes de toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Ces propos sont ceux d'Alena Štefelová, directrice du bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Prague. Par son programme mondial lancé en 1958, l'OMS est parvenue à éradiquer la variole. Au départ, personne ne croyait que la vaccination de milliards de personnes en Afrique ou en Inde pourrait être efficace et réalisable. Un tournant s'est produit après qu'une équipe de chercheurs tchèques, dirigée par le professeur Karel Raška, a présenté une nouvelle stratégie de lutte contre la variole. On écoute son fils, Ivan Raška.
Au lieu de procéder aux vaccinations massives de populations entières, l'équipe tchèque a proposé le principe de vaccination dans le foyer d'épidémie.
De cette manière, on est parvenu relativement vite à arrêter la prolifération du virus. La variole a été totalement éradiquée le 26 octobre 1977, date du dernier cas connu d'un cuisinier hospitalier en Somalie, vacciné guéri également grâce à l'aide des médecins tchèques. Selon le doyen de la faculté de médecine militaire de l'université Charles à Hradec Králové, Roman Chlíbek, l'éradication finale du virus est devenue une affaire politique et aussi l'objet de nouvelles recherches.
La variole est la première maladie infectieuse contre laquelle un vaccin a été inventé. C'est la première maladie éradiquée grâce aux campagnes de vaccination et stratégies de surveillance, mais elle est aussi la première maladie contre laquelle un nouveau vaccin moderne est à nouveau développé. Pour cette raison, des échantillons de ce virus ont été conservés dans deux laboratoires connus et habilités par l'OMS, mais personne ne sait dire où ils pourraient éventuellement se trouver encore. Le risque de bioterrorisme est effectivement bien réel, et pour cette raison, les souches du virus n'ont pas été détruites. Le développement du nouveau vaccin continue et nous faisons le maximum pour être prêt à un éventuel abus du virus à l'avenir.
L'exposition dédiée au 30e anniversaire de l'éradication de la variole est proposée au Musée national à Prague jusqu'au 17 octobre.
Comme nous vous le disions dans le bulletin d'information, ce jeudi, c'est la Journée mondiale de la Terre et mardi, deux jours avant, donc, le ministère des Transports a présenté les modifications auxquelles il entend procéder dans la législation afin de favoriser les déplacements en bicyclette. Le ministère entend notamment instaurer de nouveaux panneaux de circulation pour les cyclistes. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
L'objectif à plus ou moins long terme du ministère des Transports est de parvenir à une pleine intégration des cyclistes dans la circulation routière, de sorte, comme l'a précisé le ministre Gustav Slamečka, je cite, à ce que les automobilistes tiennent compte des cyclistes. Pour l'heure, c'est une évidence, se déplacer à vélo est toujours très problématique en République tchèque, en raison notamment du manque de sécurité, de l'importante circulation automobile et du manque de respect des automobilistes à l'égard des cyclistes. Ces derniers sont donc relativement peu nombreux, et pas seulement à Prague, comme le précise Jaroslav Martinek, coordinateur national de la politique en faveur du vélo.
Pour ce qui est des déplacements au travail, chaque ville possède des caractéristiques qui lui sont plus ou moins propres. Mais on peut considérer que la Mecque du cyclisme chez nous se trouve à Unichov en Moravie, à proximité d'Olomouc, où environ 40% de la population se rend au travail en vélo. En Moravie, on peut aussi citer la ville de Litovel et en Bohême du Sud, la ville de Trebogne, où les cyclistes sont également relativement nombreux. Mais sur l'ensemble du pays, on estime entre 5 et 6% le nombre de gens qui se servent du vélo pour aller travailler. C'est un chiffre relativement stable ces dernières années, même si après une baisse dans les années 1990,
le vélo revient de nouveau à la mode.
Pour améliorer la situation, le ministère a donc présenté les innovations qu'il entend mettre en place à l'avenir. Ces innovations touchent essentiellement la signalisation et le code de la route. Des panneaux spécialement destinés aux cyclistes devraient être installés, l'un d'entre eux devant par exemple les autoriser à emprunter des voies en sens interdit. Par ailleurs, des fonds plus importants devraient être débloqués pour la construction de nouvelles pistes cyclables. Mais surtout, le ministère des Transports souhaite voir la législation évoluer en ce qui concerne la planification des nouvelles infrastructures routières, et ce, afin que des pistes cyclables soient intégrées systématiquement dans cette planification, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Autant d'initiatives honorables, mais qui doivent encore être réalisées avant de s'en féliciter, et qui font que la République tchèque reste encore loin, très loin, dans sa politique en faveur du vélo de pays comme le Danemark ou les Pays-Bas. Radio Prague, Radio Tchèque 7, annonce la 10e édition de son concours annuel destiné à ses auditeurs. Écrivez-nous quel écrivain tchèque ou quel livre tchèque vous a le plus marqué et pourquoi. L'auteur de la meilleure réponse remportera un séjour à Prague d'une semaine pour deux personnes. Les autres participants recevront des prix de valeur et des souvenirs. Les meilleures réponses seront annoncées dans nos émissions et sur notre site internet www.radio.cz les 26 et 27 juin. Envoyez vos réponses avant le 15 juin 2010 à l'adresse suivante Vinohradská 12 120 99 Prague, République tchèque ou par courriel à l'adresse suivante cr@radio.cz. Le premier prix pour le vainqueur est offert par Park Hotel, sponsor du concours. Park Hotel Prague, un lieu où le confort se marie à l'histoire, à la qualité et au design moderne à proximité du centre de Prague.
Vous l'avez entendu, c'est le moment de participer à notre nouveau concours. On attend vos réponses. Voilà, c'est la fin des faits et événements. Tout de suite, vous retrouvez la rubrique du jeudi.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
La semaine dernière, le professeur Bernard Charpentier du Centre hospitalier universitaire de Bicêtre a reçu à Prague une haute distinction qui lui a été décernée par Stefan Witko, président de la Fondation Karel Pavlik, pour ses mérites dans le développement du programme de transplantation et de don d'organes. À cette occasion, il a accordé une interview à Radio Prague pour expliquer ce que cette appréciation signifie pour lui.
Une très haute appréciation pour la raison suivante, c'est que d'abord les fondations de transplantation sont indispensables dans le monde entier pour faire progresser le prélèvement d'organes, les progrès en transplantation et l'amélioration de la vie des gens, et des transplantés en particulier. Et la deuxième chose, c'est que cela provient de la République tchèque, très connu en transplantation. Le professeur Witko est très connu en transplantation et c'est un des leaders européens de transplantation. Donc tout ce qui ressort à la fois de la Fondation de transplantation tchèque et bien sûr dans ce magnifique endroit qui est l'Université Charles a pour moi beaucoup d'importance. En tant qu'ancien président de la Société européenne de transplantation, je suis très fier et très ému de recevoir cette distinction dans le cadre de cette prestigieuse université.
Est-ce pour vous aussi une occasion de porter un regard en arrière sur votre parcours professionnel et voulez-vous éventuellement évoquer certains points forts de ce parcours ?
Alors écoutez, c'est effectivement un moment où historiquement, à l'âge que j'ai, je ne suis pas très vieux, mais il y a très longtemps que j'ai consacré ma vie à la transplantation d'organes et la néphrologie. Il y a des choses très positives. Les choses positives, c'est clairement les grands progrès en transplantation qui ont été faits, progrès chirurgicaux, progrès médicaux, progrès technologiques, et en même temps une grande peine que j'ai rappelée dans mon petit discours, qui est que malgré l'effort fait par les professionnels de santé, éventuellement par les gouvernements, nous avons un défaut très important du nombre d'organes potentiellement donnés à des receveurs. Ça existe dans tous les pays du monde. Certains ont des déficits encore plus importants que d'autres. Et que je ne comprends pas, c'est un des points noirs de ma vie professionnelle, je ne comprends pas pourquoi les pays développés dans le monde entier ne sont pas capables d'avoir une suffisance d'organes pour la transplantation. En effet, quand on est mort, cérébralement mort, il ne sert à rien d'aller au ciel avec deux reins, un foie, un cœur, deux poumons. On peut le donner par un geste généreux de solidarité à des gens qui en ont besoin de façon vitale. Et je rappelle qu'en France, il y a entre 300 et 400 morts tous les ans de gens qui n'ont pas pu avoir de transplantation. Donc je ne comprends pas comment la société qui devrait être plus généreuse, plus solidaire, dans tous les pays européens, dans tous les pays du monde, ne suit pas cette démarche médicale, mais en même temps sociétale et éthique.
Quelle explication avez-vous à cette situation ? À qui la faute ? Aux législateurs ? J'imagine que la situation quand même diffère d'un pays à l'autre.
Alors vous avez raison de poser le problème du législateur. La France a essayé d'adopter une législation extrêmement libérale en 1976 par le consentement présumé. C'est une loi qui dit que toute personne de son vivant, si elle n'a pas fait marque d'opposition au don, sera considérée comme donneuse d'organes après sa mort. Le problème, c'est que la famille, très souvent, n'a pas entendu le message de la personne et donc s'oppose au prélèvement. De ce fait, le prélèvement ne peut pas avoir lieu. Et je le rappelle, en France, nous avons à l'heure actuelle 40% de refus familiaux, alors qu'il n'était que de 5% en 1976. Pourquoi la société bloque devant ce problème dramatique, qui est le problème de la mort ? Je pense que dans nos sociétés modernes, la mort n'est plus au milieu d'un centre de débat. La mort se fait à l'hôpital, la mort est évacuée, elle est à la télévision, elle est dans les médias, elle n'est pas vécue par les familles et en définitive, les gens ne veulent pas parler de leur mort ni de leur maladie. Je crois que c'est un problème de notre société qui n'est pas assez généreuse et assez solidaire.
On parle de la transplantation d'organes. Quel est le domaine ou bien quel est l'organe qui remporte les plus grands succès ces derniers temps?
Alors, de façon très paradoxale, le rein a beaucoup amélioré ses prestations, mais celui qui a fait le plus de progrès est le foie. En effet, la transplantation hépatique, d'une position très balbutiante dans les années 80, maintenant est en régime de croisière avec une augmentation spectaculaire. En plus, s'adressant à des gens jeunes qui ont été contaminés, comme vous le savez, par des virus, le virus de l'hépatite C ou le virus de l'hépatite B, et que donc les résultats sont maintenant spectaculaires, d'autant plus que le foie peut être divisé en deux parties. On peut faire deux transplantations avec un seul foie, et d'autre part, le foie se régénère. Donc c'est un organe qui est assez intéressant sur le plan de la survie des patients. Et celui qui, à l'heure actuelle, stagne le plus, c'est la transplantation cardiaque. Les conditions de prélèvement sont relativement restreintes, l'âge élevé est une contradiction à la transplantation cardiaque et il y a beaucoup de morts de gens qui ne peuvent pas transplanter.
À mon sujet, vous êtes venu à plusieurs reprises pour le travail à Prague. Quels sont vos liens avec vos collègues de Prague ?
Ils sont très anciens, très excellents et il y a une manière de pratiquer la médecine qui est à peu près identique en France et en République tchèque. C'est une médecine qui n'est pas basée sur les rapports financiers. La médecine tchèque telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est pratiquée, est une médecine qui ressemble beaucoup à la médecine française, dans laquelle les rapports commerciaux ne sont pas aussi puissants que dans le monde anglo-saxon. Donc nous avons une espèce de communauté, un peu de pratique médicale avec la République tchèque. Je l'ai rappelé, nous avons eu beaucoup d'interfaces scientifiques avec la République tchèque et avec Prague, en particulier dans le passé. Et d'autre part, Depuis de nombreuses années, la République tchèque est inclue maintenant dans un mouvement, j'allais dire, européen. Je souhaite que la République tchèque fasse partie de l'Europe. Je crois que c'est incessamment sous peu et que je puisse dépenser mes euros en euros et peut-être plus en couronnes. Mais je pense que la communauté existe, à la fois intellectuelle, à la fois géographique. Il faut 1h15 d'avion pour aller à Prague et il faut 1h30 d'avion pour aller à Barcelone. Donc pour moi c'est tout à côté. Et je terminerai par dire que la position très centrale européenne de la République tchèque entre l'Ouest et l'Est fait que c'est un intermédiaire indispensable entre le monde de l'Est, le monde de l'Ouest, le monde du Nord et le monde du Sud. La République tchèque est exactement au milieu de ce triangle magique qui est Budapest, Prague et Vienne. Donc c'est comme tous les triangles magiques, ça donne la vie, ça donne la joie et ça donne le tonus surtout. On a besoin de beaucoup de charisme et de tonus en Europe.
La fondation qui a remis le prix à Bernard Charpentier, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, créée en 1992, porte le nom de Karel Pavlík, patient ayant subi en 1966 la première grève du Rhin réussie dans l'ancienne Tchécoslovaquie.
Les émissions en langue française de Radio Prague sur ondes courtes, c'est terminé. Mais les émissions de Radio Prague continuent évidemment sur le web, en retranscrit. Notre adresse, vous la connaissez, c'est le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.